Lucien Fradin de la compagnie HVDZ se produira cette saison deux fois au Théâtre d'Arras. Il propose deux spectacles atypiques et autofictifs. Le premier qui se déroulera le 13 novembre prochain, intitulé Éperlec, petite commune du Pas-de-Calais dont il est originaire, nous plonge dans l'intimité de son enfance et de son adolescence. En nous ouvrant son album de famille à l'aide d'un rétroprojecteur, il vous emmènera au cœur d'un documentaire théâtralisé. Le second, Wolverdingue, qui est une commune des Flandres, met en scène la vie de Josiane, sa grand-mère, qui apparaît de temps à autre par le son et l'image, et nous parlera de la transmission d'une mamie à son petit-fils. Celui-ci sera joué sur trois représentations les 15, 16 et 17 janvier 2019. Ces deux spectacles ont des points communs, la vie du monde rural, les difficultés de l'adolescence auxquelles l'auteur a été confronté, notamment pour assumer son homosexualité. Entretien avec l'auteur et interprète Lucien Fradin, rencontré lors d'une étape de création au Théâtre d'Arras. Vous faites partie de la compagnie HVDZ, on peut peut-être... Bon, expliquez un petit peu ce qu'est cette compagnie et d'où elle vient.
HVDZ, c'est une compagnie qui est basée à Los Angeles, sur la base 1119, qui ont leur bureau là-bas, et elle a été créée par Guy Alouchery, qui travaille sur les questions de territoire, d'accès à la culture, qui travaille sur les questions ouvrières, etc., dans le bassin minier.
Donc, ces deux spectacles, ils ont évidemment un point commun, on va peut-être essayer un peu de les détailler sans trop en dire. Vous êtes originaire d'Éperlec, il y a quand même des histoires de famille dans ces deux pièces.
En fait, j'avais lu le livre « Retour à Reims » de Didier Ribon, qui travaille comme ça, qui, à la mort de son père, revient dans sa famille pour comprendre pourquoi il a quitté sa famille, pourquoi il est parti à Paris, et il met en jeu des questions sociales avec des questions autour de l'homosexualité, etc. Et donc au départ, j'avais décidé d'appeler ce spectacle Retour à Éperlec. Et puis je me suis dit qu'Éperlec tout seul, il y avait un truc plus poétique et puis moins sociologique aussi, de commencer à mettre un peu de mystère dans cette histoire. Et puis ça résonnait bien. Et là, en faisant ce deuxième spectacle sur ma grand-mère qui habite à Wolverdingue, j'ai cherché des titres évidemment. Et puis à un moment quand même, Wolverdingue, c'était quelque chose qui évoquera ce qu'il voudra à chaque personne, mais qui quand même avait plusieurs sonorités à l'intérieur et plusieurs mots inclus qui donnaient quelque chose qui marchait à nouveau, donc j'ai décidé de faire pareil.
Ces deux spectacles évoquent votre enfance, votre adolescence également, un peu votre vie de famille aussi, puisque dans Éperlec, c'est plutôt, vous avez eu des recueils de témoignages de membres de votre famille, de vos proches, et puis la grand-mère, c'est plus pour Wolverdingue. Comment vous avez mis ça en place? Est-ce que d'abord tout le monde a joué le jeu? Comment ça s'est passé?
Alors en fait, quand je suis arrivé à HVDZ, c'était pour faire une recherche de travail. Et donc j'avais décidé de revenir à la maison et puis de faire ma première semaine de résidence avec mes parents et de les interviewer sur deux questions. C'était comment ton adolescence et c'était comment mon adolescence. Et voilà, donc ils ont joué le jeu, puis surtout parce qu'ils n'avaient jamais vu ce que je ferais de ça comme matière et ils ne savaient pas du tout ce que j'allais en faire de ce spectacle. Et ça s'est plutôt bien passé. Enfin, ça a été évidemment... je prends la liberté de raconter ce que je veux une fois au plateau, sans jamais détourner aussi la parole des gens que j'interview, quoi. Et c'est un système qui a assez bien fonctionné, mais qui est resté assez brut. Dans Éperlec, les sons sont quand même de l'ordre plutôt du documentaire, enfin, et du documentaire assez raté. Alors que là, sur Wolverdingue, l'idée, c'était de continuer à utiliser ce son, et je travaille notamment avec Aurore Magnier, qui a vraiment envie d'expérimenter ces choses-là. Et j'avais envie que mamie, elle soit là, mais comme elle ne peut pas partir en tournée avec moi, etc., on avait envie qu'elle soit présente par autre chose que la vidéo qu'on voit dans tous les spectacles contemporains, mais peut-être de prendre le temps d'un vrai bon enregistrement et de pouvoir découper sa voix pour lui donner une nouvelle narration et tourner avec ça.
Cette mamie, comme vous l'appelez, elle a une spécialité, c'est qu'elle est rebouteuse. Alors, est-ce qu'on peut peut-être dire un petit peu ce que ça signifie, ce mot qui est un petit peu perdu d'ailleurs, qui s'est perdu un peu?
Ma grand-mère se revendique pas comme rebouteuse, mais elle a une de ses pratiques qui en est. Donc les rebouteuses, c'est des gens plutôt dans les Flandres françaises et puis dans les régions assez campagnardes ou rurales. En fait, pendant longtemps, il y a eu cette idée que les médecins n'étaient pas partout et donc il y avait des gens dans les villages qui avaient des connaissances et des méthodes pour guérir les animaux, guérir les gens à partir de plantes, à partir de cérémonies, etc. Et ma grand-mère, qui vit dans ce genre d'espace, donc elle a déjà fréquenté des rebouteux, un jour s'est fait brûler avec l'huile d'une friture et elle a appris à couper le feu. Et donc elle n'est pas rebooteuse dans le sens où elle ne connaît pas l'ensemble des techniques, mais une des techniques de rebooteux, c'est de pouvoir arrêter le feu. Donc quand on a une brûlure, elle fait un rituel autour de nous et la brûlure s'arrête.
Il y a une fontaine aussi, qui est assez célèbre apparemment.
Qui est célèbre à son échelle. Oui, il y a la fontaine Saint-Martin. La fontaine Saint-Martin, c'est une fontaine qu'elle dit miraculeuse et qui a la propriété de soigner les maladies des yeux. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse chez ma grand-mère, c'est comment elle arrive à réconcilier des pratiques qui sont catholiques et qui mettent plutôt à l'écart toutes les pratiques païennes, et justement des pratiques païennes avec des mythes et des croyances et des... Voilà, la première étape s'appelait « Il suffit d'y croire ». Et j'aime bien ce que propose ma grand-mère sur cette idée, c'est de dire « si on y croit, ça marche ». Et donc elle convoque la religion catholique, mais aussi les rebouteux, elle convoque aussi le Reiki, qu'on a pu entendre ce soir aussi. Et donc voilà, un ensemble de choses qui ne sont pas censées être cohérentes ou aller ensemble deviennent un ensemble d'outils qu'elle manipule pour se soigner et soigner son entourage.
Avant de retrouver Lucien Fradin pour la suite de cette interview, je vous propose d'écouter un extrait du spectacle Wolverding.
J'aime bien ces pratiques. Je ne sais pas la poser par terre. Bon, donc nous allons faire un petit tour à la fontaine. La fontaine miraculeuse de Wolverding. Alors, pourquoi miraculeuse ? Parce que l'eau soigne les maladies des yeux et également les maladies de peau. Voilà, voilà. Donc, beaucoup de personnes y viennent régulièrement pour chercher de l'eau, pour se soigner. Voilà, et c'est, moi, je pense que c'est quand même un petit peu mon coin préféré de Wolverding. Il n'est assez fréquenté. On y voit pas mal de monde qui viennent, donc c'est connu. Et je lisais justement qu'avant, il y avait beaucoup de fontaines comme ça. Et un peu à la fois, elles disparaissent. Voilà. Je marche avec précaution. Mais il y a des gens qui viennent de Dunkerque, qui viennent d'assez loin. Qui connaissent donc la fontaine. Voilà. Et moi, j'ai le souvenir, quand même, c'était avec Sylvain, qui faisait sans arrêt des conjonctivites. Et un jour, j'ai dit à Catherine, je vais lui mettre de l'eau de la fontaine. Catherine m'a dit, non, elle est polluée, tu vas pas faire ça. Non, non, Catherine. Et bien entendu, je suis allée chercher de l'eau à la fontaine. J'ai lavé les yeux de Sylvain. Plus jamais de conjonctivite. Donc, il y a quand même des petits miracles comme ça auxquels il faut croire. Non ? Oui ? Enfin, je ne sais pas.
Les deux villes, Perlec et Wolverding, sont dans un milieu rural. Comment ça se passe, la culture, dans les milieux ruraux ? Vous, évidemment, comme maintenant vous faites du théâtre, comment vous avez vécu justement ce sortir de là pour avoir accès à la culture ?
Alors là, je vais faire d'abord une réponse plutôt HVDZ, qui dit que la culture, elle est partout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des cultures et elles sont différentes selon les espaces. Après, la culture, disons, plus officielle, ou en tout cas représentée par le ministère de la Culture, par exemple, en effet, pas beaucoup de pied-à-terre à Éperlec ou à Wolverding. Moi, j'ai vu mon premier spectacle contemporain quand j'avais 15 ans. J'ai décidé de partir à Calais, au lycée Sophie Berthelot, pour faire du théâtre, et parce que j'avais envie, donc en internat, etc. Et je crois qu'Éperlec, ça raconte vraiment ça. C'est aussi que peut-être je ne l'aurais pas fait s'il y avait eu des copines que j'avais pu draguer dans mon village. Et donc, c'est aussi la réflexion sur pourquoi les gens vont dans les villes, qu'est-ce qu'ils vont y chercher, quelle effervescence on va chercher en ville qu'on ne trouve pas à la campagne, et quelle nouvelle représentation on peut avoir qui peut-être arrive plus tardivement à la campagne, et aussi parce que, par exemple, dans Éperlec, je raconte que Internet est arrivé quand je le quittais. Donc c'est aussi des espaces qui, jusque-là, sans scooter, ne permettaient pas d'avoir accès de manière autonome, soit à d'autres homosexuels, soit à des spectacles d'art contemporain.
Justement, ces deux spectacles traitent un peu de votre homosexualité, et de l'homosexualité en général. Dans le milieu rural, comment ça se passe ? Comment vous l'avez vécu, vous ?
Je crois que ça s'organise différemment. Je connais des gens qui habitaient très près, qui avaient une homosexualité, mais aussi une femme et une fille. En fait, je pense qu'on met en place des stratégies qui ne sont pas les mêmes qu'à la ville, parce qu'à la ville, on va trouver des espaces où se rencontrer, alors qu'à la campagne, on va... Moi, je m'intéresse beaucoup à la drague en extérieur, et à la campagne, il y a énormément d'endroits où les gens viennent garer leur voiture pour se rencontrer, par exemple. Et donc, c'est des espaces qui sont peut-être plus dans le secret, ça, je crois que c'est assez sûr, mais où quand même ça s'organise. Après, ça s'organise à des échelles où moi, à 15 ans, je n'avais pas les outils pour trouver comment c'était organisé. L'homosexualité est plus forte que la ruralité, c'est-à-dire quoi.
Pour la mise en scène, la scénographie, comment vous avez travaillé les deux pièces? Il y a des recherches plutôt dans l'une plutôt que dans l'autre?
Oui, bah, y a une grande différence entre les deux, c'est que Éperlec, je l'ai créé tout seul à une table, et que là, Vulverdingue, depuis le début, je suis accompagné par trois personnes, donc Aurore Magnier au son, Philémon Van Orlé à la scénographie et François Pavot à la lumière. Et donc, ce qui change, c'est que Éperlec, c'était un travail de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire tout seul. Et donc, je suis plutôt parti sur quelque chose de l'ordre de la conférence, de mes expériences de prof, et donc de comment on vient raconter des histoires sur scène. Et donc, c'est quand même très minimaliste. Enfin, j'ai un rétroprojecteur et des transparents. Et avec ça, on fait un spectacle. Alors que là, avec cette nouvelle équipe, il y a ce que je propose aux gens qui travaillent avec moi, c'est de travailler dans leur coin à partir des éléments que je leur donne et comment tous les quatre on arrive à communiquer pour que ça ait pas l'air d'un joyeux bordel mais que ça ait l'air de quelque chose de cohérent. Et donc voilà, c'est un travail de plus longue haleine aussi, je pense, mais qui rend un objet beaucoup plus fignolé et beaucoup plus visuel, beaucoup plus sonore. Enfin voilà, il y aura sur Vulverdingue un espace mental plus intense que Éperlec qui donne les choses de manière assez frontale comme ça.
Puis il y a surtout la voix de votre grand-mère qu'on entend évidemment de manière sonore, qu'on ne voit pas sur scène, qu'on devine presque hein, finalement. On rentre aussi dans son intimité puisque dans la scène, sans vouloir dévoiler, il se passe quelque chose, elle est en train de travailler justement. J'imagine que ça doit développer un peu l'intensité de ce spectacle.
Ben, en fait, Éperlec c'était une sorte de carte blanche pour moi, donc je pouvais dire absolument ce que je voulais. Et là, ce qui devient intéressant, c'est que je dois dire les choses que j'ai envie de dire en laissant de la place à ma grand-mère. Et donc, d'ailleurs au début, il n'y avait que ma grand-mère sur scène et les collègues m'ont dit bah, « t'as qu'à faire une pièce radiophonique parce que si c'est pour écouter ta grand-mère, on n'a pas besoin de toi ». Et donc c'est un peu ce jeu qui va être intéressant et qui avance d'ailleurs assez rapidement sur quelle est la place de ma grand-mère et quelle est la mienne et comment tous les deux on peut gagner tout en racontant des choses qui peuvent ne pas forcément toujours se rencontrer.
C'était un entretien avec Lucien Fradin qui présentera Éperlec le 13 novembre prochain et Vulverdingue les 15, 16 et 17 janvier 2019 au Théâtre d'Arras. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le net www.tandem-arrasdoué.eu.
Eh bien, je vois bon, un grand tilleul. Sur le tilleul, il y a une petite chapelle. Et dans cette petite chapelle, il y a la statue de Saint-Martin. Voilà. Bon, et là devant, donc, il y a un hôtel. Et cet hôtel a été construit par un monsieur du Vulverdingue qui avait été malade et qui a bâti cet hôtel en remerciement. Pendant plus de... Enfin, il n'y a pas tellement longtemps qu'on ne fait plus les messes de rogation ici à l'Ascension. Entre l'Ascension, le jeudi de l'Ascension et le dimanche, pendant ces trois jours, ils faisaient ce qu'on appelait les messes de rogation pour bénir les moissons. Donc, quelqu'un disait qu'il y avait une plaque, mais je ne sais pas ce qu'il y a. En fait, regardez, ça sur la plaque. Alors, je ferai couler sur vous une eau vive. C'était ici, il y avait le prêtre qui officiait, qui arrivait avec son ciboire, la croix, enfin tout ce qu'il faut pour célébrer une messe. Donc l'eau arrive entre les racines là, du deuxième tilleul. Oui, je me sens bien que c'est de celui-là. Donc voilà, c'est un coin qui était à un moment qui était bien fréquenté aussi par les sangliers. C'était un petit lieu de... Hein, voilà.